RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Bonjour à tous. Écologie et finances peuvent-elles faire bon ménage? C'est vrai qu'on entend souvent parler de finances vertes, de produits éco-responsables. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce que c'est du marketing ou la finance peut réellement être écologique? On en parle ce matin dans Je pense, donc j'agis. On s'intéressera plus particulièrement dans la seconde partie de l'émission à 10h au commerce équitable, qui est un peu l'anti-finance verte par excellence, comme vous l'entendrez à travers les actions de deux associations. Vous avez bien sûr la parole, comme chaque jour, pour réagir et témoigner. Pensez-vous que la finance puisse contribuer à protéger l'environnement et notamment à lutter contre le réchauffement climatique? Est-ce une question qui vous concerne en tant que citoyen ou est-ce une question plutôt pour les décideurs politiques? Et dans ce cas, que doivent-ils décider pour que la finance ne contribue plus aux émissions de gaz à effet de serre? Vous avez la parole au 04 72 38 20 23. C'est Mélissa qui attend vos appels au standard. Vous laissez vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr et dans notre groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».
Jusqu'à 11h, « Je pense, donc j'agis » sur RCF.
Bonjour Anne Kerléo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes la rédactrice en chef écologie RCF et donc ce matin on parle de finances vertes.
Oui, on se demande si cette expression qui fait florès désigne une réalité ou si c'est un oxymore, vous savez ces mots accolés alors qu'ils désignent des réalités contraires et incompatibles. Un Français sur deux souhaiterait que son épargne profite à l'écologie, alors c'est une belle intention mais est-ce possible? Apparemment oui, puisque de plus en plus de produits financiers éco-responsables, verts ou solidaires sont proposés. Mais au-delà du marketing, qui répond aux souhaits de vertu du consommateur, qu'est-ce qui se cache derrière les mots et que sont réellement ces produits? En fait, les deux grandes sous-questions de notre thématique du jour sont les suivantes. Des investissements rentables peuvent-ils être écologiques? Et si tel n'est pas le cas, eh bien les acteurs de la finance sont-ils prêts à réduire le rendement de leurs investissements? Peut-être même le font-ils déjà. Et quand on parle des acteurs, on parle aussi de chaque citoyen en tant qu'épargnant potentiel.
Et pour en discuter jusqu'à 10h, nous recevons trois invités, Anne.
Oui, et d'abord Lucie Pinson, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous travaillez depuis plusieurs années sur le désinvestissement des énergies fossiles, d'abord au sein des Amis de la Terre et depuis 2020 au sein de Réclame Finance, une ONG que vous avez créée. Le 30 novembre 2020, vous avez reçu le prix Goldman pour l'environnement, pour la région Europe, pour votre combat face à trois banques françaises qui investissaient massivement dans la filière charbon et qui ont stoppé le financement en direct de mines et de centrales à charbon. Lionel Lemarié, bonjour.
Bonjour Anne.
Vous êtes directeur commercial chez La Française, qui est une société de gestion d'actifs. Alors on expliquera peut-être ce que ça veut dire, gestion d'actifs. Et puis vous êtes membre de l'association Acteurs de la Finance Responsable, qui regroupe des professionnels du secteur financier qui souhaitent s'engager pour une finance éthique au service de l'humain et de son environnement. Et je cite là ce qui est écrit sur le site internet de votre association.
Merci.
Et puis Julien Lefournier, bonjour.
Bonjour.
Diplômé de l'école des mines, vous avez travaillé pendant 25 ans sur les marchés financiers, dans des banques, et aujourd'hui vous êtes membre de différents groupes de travail sur les limites de la finance verte. Vous avez publié au printemps dernier avec l'économiste Alain Grandjean le livre « L'illusion de la finance verte » aux éditions de l'Atelier. Merci à tous les trois d'être avec nous ce matin.
Et on va commencer comme chaque jeudi avec vous, Anne, par notre chronique « Tout est lié » et nous accueillons ce matin Adrien Louandre.
Bonjour Adrien.
Bonjour Anne, bonjour Melchior.
Bonjour.
Alors c'est vous qui avez le privilège de répondre le premier à cette question qu'on se pose ce matin. Pour vous, la finance peut-elle être verte?
Sacrée question. En grec, il y a deux sortes de colère. La colère timos, qui serait une rage de colère, et la colère orgé, qui est plus ou moins la colère que le Christ a contre l'injustice. Et donc je voudrais ici vous exprimer une petite colère orgé, parce que oui, en théorie, la finance mondialisée peut être verte, en théorie, mais en pratique, si tout le monde n'a pas laissé son éthique à la porte des marchés financiers, le système financier en lui-même me paraît intrinsèquement pervers. Car de fait, aujourd'hui, j'ai pas envie de lancer une alerte, et il faut dire les choses. La finance actuelle tue. Ne nous y trompons pas, ce sont eux les responsables du dérèglement climatique. Et ils ont des noms. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, qui est-ce à votre avis? Alors, Total, oui, certes, mais pas seulement. D'après Oxfam, les trois entreprises les plus polluantes de France ne sont ni Total, ni même Air France, mais bien trois banques. La Société Générale, qui donne quand même plus des coups de pouce pour détruire votre avenir et celui de vos enfants qu'autre chose. Le Crédit Agricole, qui fait un crédit sur nos vies. Et la BNP Paribas, qui n'a de populaire que le P de son nom. parce que bon, laissez-moi rire. Mais pour vous donner un ordre d'idée, chacune d'entre elles pollue plus que l'État lui-même, d'après ce même rapport d'Oxfam. Chacune gère autant d'argent, d'ailleurs, que le budget de l'État. Mais là, aucune démocratie, mais bien plus un système gangrénant monsieur et madame tout le monde à être dépendant au niveau bancaire et financier. À l'auditeur chrétien, je voudrais aussi dire que on ne peut servir Dieu et l'argent, nous dit l'évangéliste Matthieu. Jésus nomme ses adversaires, il nomme les marchands du temple, et ce sont les mêmes qui financent de fausses études sur le réchauffement climatique pour faire croire que c'est une hérésie des écologistes, pendant que se délectent à mettre de l'argent dans les poches en finançant les énergies fossiles, le gaz de schiste en Arctique, le charbon, tout ça, tout ça. D'ailleurs, depuis la COP21, ces banques qui font pression sur les États ont injecté quelques 250 milliards de dollars supplémentaires dans les énergies fossiles.
Alors, au-delà de la colère, que proposez-vous ? La finance ne peut en aucun cas trouver grâce à vos yeux ?
Ben, le problème, c'est pas juste la finance, mais c'est aussi les financiers. Ce sont quand même des personnes. Pendant que ces ultra-riches alimentent la catastrophe climatique au nom de la rentabilité, les premières victimes, ce sont, elles, des populations qui souffrent de la faim, de la soif ou de problèmes de santé. D'autant que, bon, ils détruisent un petit peu la démocratie européenne. On l'a vu avec l'exemple grec en 2015. Le malheur de notre société ne vient pas de nulle part et ne vient certainement pas des personnes en situation de migration qui fuient la guerre, la misère, la sécheresse ou la montée des eaux. De qui viendrait-il ? Alors s'ils ne viennent pas de ceux qui ont quand même le pouvoir, l'argent et les grands médias. Le jésuite et économiste Gaël Giraud propose de bonnes solutions dans ses différents livres, je vous laisserai aller voir, et sûrement nos invités aussi proposent énormément de bonnes solutions, et les associations comme Oxfam également. La finance d'aujourd'hui façonne le monde de demain, d'aucune des solutions peut être d'investir, et vous le détaillerez sûrement ensuite, dans des banques écologiques, et on peut citer par exemple l'ANEF. Et ce même rapport d'Oxfam nous dit que cela réduira votre empreinte carbone personnelle de moitié. S'il y a un geste sûrement très impactant à faire et rapide, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, pour vous faire une petite confession, moi-même en écrivant cette chronique, j'étais à la Caisse d'Épargne, la quatrième pire banque, et je suis passé à la Nef. Vous pouvez aussi aller à la Banque Postale, par exemple, banque en partie publique, qui s'est retirée des financements des énergies fossiles il y a quelques semaines. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, au Pakistan et aux Émirats Arabes Unis, deux zones ont été déclarées par l'ONU récemment, je cite, « inhabitables par l'homme ». Bientôt, ce seront malheureusement des pays entiers, nous le savons. Vous savez... Si vous écoutez régulièrement mes chroniques, que j'ai quelques rêves de famille et je veux voir mes futurs enfants grandir dans un monde meilleur et pas dans un monde fossilisé que celui qui nous dessine les grandes banques. Pour l'instant, en partie à cause d'eux, c'est malheureusement un mirage. Comme le disait l'abbé Pierre, ceux qui disent avec tout le plat dans leur assiette et avec une bonne figure et une bonne conscience, nous, on est pour la paix, j'ai envie de leur crier à ceux-là que les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Si vous travaillez pour eux, vous le savez très bien, vous n'en êtes pas les seuls responsables. Et bah oui, il faut bien manger, vous avez bien raison. Mais vous participez à l'action de banques qui sont criminelles. J'assume le mot « criminel ». Comme le dit le romancier Olivier Norek, un jour Greenpeace sera remplacé par Green War. Il ne faudra pas s'en étonner, car rien ne remplace l'énergie d'un parent qui se bat pour ses enfants. Alors changez, changez vite, car non seulement vous pourrirez avec votre argent acquis sur la misère des pauvres, mais ce sont ces mêmes pauvres qui bientôt vous feront changer de gré ou de force.
Merci beaucoup Adrien Louandre pour cette chronique. Merci. Tout est lié que l'on pourra réentendre dans quelques minutes sur rcf.fr. La semaine prochaine, c'est François Mandil qu'on retrouvera à votre place. Et j'ajoute, Adrien, que vous venez de publier avec deux co-auteurs un livre qui a pour titre « Face à l'incendie, tordre le cou aux colibris ». On le trouve sur Internet en tapant le titre dans un moteur de recherche.
Voilà, on invite Merci. Les auditeurs à le lire. On en reparlera dans cette émission
l'année prochaine.
À partir de janvier. Voilà. Alors, une chronique tout en colère, même si c'est dit sur un ton jovial, d'Adrien Louandre ce matin. Je précise qu'Adrien a 26 ans. Vous êtes encore là, Adrien, c'est ça ?
Oui, oui.
Voilà, donc ça dit aussi, c'est lui qui va l'habiter, ce monde-là, à venir. Peut-être, Lionel Lemarié, d'abord, comment vous recevez cette chronique ? Je ne sais pas si les trois grandes banques incriminées font partie de vos adhérents.
Comment je la reçois ? Très bien, je trouve qu'effectivement, vous avez raison, sur l'âge de notre ami... Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, vous avez des jeunes qui sont de plus en plus intégrés dans cette préoccupation de la gestion ISR, la gestion de la finance durable. Après, j'en apprécie toutes les références. Je vois qu'il termine par Olivier Norek, qui a écrit notamment Impact et qui va donc très très loin dans l'éco-terrorisme, donc dans son dernier livre. Et j'en apprécie ce sur quoi, je suis mollement d'accord. C'est la partie, le cœur de sa chronique, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement la finance qui est problématique, c'est l'industrie qui fait du CO2. Après, la finance, effectivement, finance toute cette partie-là, mais c'est l'industrie qui génère 80% des émissions de CO2 via l'industrie lourde, via le transport. Donc c'est ça le véritable sujet.
Alors on va entamer le débat. Lucie Pinson, comment vous réagissez à la fois à la chronique et à ce que vient de dire Lionel Lemarié ?
Bah, la question, c'est celle de la responsabilité. Et, je pense que dans la chronique, voilà, le mot criminel a été posé. La question est, est-ce que les institutions sont criminelles? Je le pense, étant donné qu'ils en sont, ils ont connaissance des impacts du dérèglement climatique depuis des années. Il faut quand même rappeler que le premier rapport d'un assureur MuniCRE sur les risques liés au climat date de 1972. Et donc, ils ont une connaissance très fine du phénomène climatique et des causes du dérèglement climatique. Et pourtant, on continuer de mettre de l'argent, des couvertures d'assurance ou des investissements dans le déploiement d'infrastructures qui, les mêmes causes causant les mêmes effets, ne peuvent que aggraver la situation climatique. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que les personnes travaillant dans les institutions, elles, sont criminelles ? Il faudrait établir les chaînes de responsabilité. Les personnes en plus haut niveau, bien entendu, ont une grande responsabilité à réorienter et transformer profondément les institutions qu'il dirige. Un point qui est assez intéressant, surtout d'un point de vue d'ONG, puisque nous on travaille sur la finance depuis des années avec depuis que 2 ans avec Reclaim Finance, mais depuis des années avec les Amis de la Terre. Et c'est vrai qu'on a vu l'évolution aussi de ces établissements, avec la création au début de groupes, d'équipes RSE, donc en charge de la responsabilité dite sociale et environnementale des entreprises. Et c'est vrai qu'au début, ces personnes-là, elles avaient comme principale responsabilité de faire briller et de défendre l'image d'une institution, de contrôler des gens et des ONG comme les nôtres, pour éviter la controverse publique. Et donc la première motivation des institutions financières pour agir a été la réputation face à une montée de ces sujets-là au sein de la population et au sein aussi des salariés de ces institutions. Et puis il y a eu la COP 21 avec une nouvelle dynamique qui s'est engagée, celle de la reconnaissance des risques intrinsèques posés sur le secteur financier liés au dérèglement climatique, puisque sur long terme, les institutions financières, que ce soit des banques, des investisseurs ou des assureurs, ont un intérêt à agir puisqu'ils seront impactés inéluctablement par le dérèglement climatique. On peut se souvenir de la fameuse citation du PDG d'AXA en 2015, un monde à 2 degrés est assurable, un monde à 4 degrés ne l'est pas.
Donc on voit l'évolution des motivations, mais on va y revenir, on va parler aussi de la COP26, vous nous direz si vous trouvez qu'il y a eu des avancées. Mais Julien Le Fournier, vous, comment vous réagissez d'abord à la chronique peut-être ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont accroché votre oreille en particulier ?
Oui, donc je suis en phase avec un certain nombre de choses qui ont été dites. Après, justement, c'est intéressant la réaction de Lionel Lemarié directement, parce qu'il a raison de dire, et ça c'est, on comprend les ONG pour frapper les esprits, on parle des émissions des banques, mais enfin, une action, une obligation, ça n'émet rien du tout, ça n'a pas d'empreinte carbone. Donc il a raison de dire que ce qui compte, c'est le monde physique. Il faut écouter les conférences de Jean-Marc Jancovici, il faut revenir toujours à la physique, au budget carbone, à des notions qui sont incontestables, et à la science du climat. C'est le plus sain. Mais enfin, une fois qu'on a dit ça, on peut pas, comme Lionel Lemarié, dire « les financiers jouent pas de rôle », parce qu'on sait très bien que dans le monde dans lequel on est, on n'est pas des primitifs, on est un monde monétarisé, financiarisé. Et donc si on ferme le robinet des financements, il n'y a plus de nouvelles explorations fossiles. Alors bien sûr, les boîtes, les entreprises ont une capacité d'autofinancement, mais ça limiterait considérablement. Donc la finance ne peut absolument pas se laver les mains de ce qui se passe, parce qu'effectivement, c'est son nom. Elle finance l'économie réelle, elle finance les entreprises. Et après, si vous voulez... ce qui a été développé, enfin, c'est, je pense que c'est un peu l'objet de la discussion sur la finance verte. C'est un petit peu comme un chiffon rouge qu'on agite devant les yeux, devant un taureau. Là, c'est le chiffon vert qu'on agite devant les yeux du public. Mais moi, je reprendrai les mots. Pourtant, je serais pas si souvent que cela d'accord avec lui. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a dit « La finance sera verte ou ne sera pas ». Dans cette déclaration, alors pour moi, en tout cas, je ne sais pas « sera », mais elle ne l'est pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans sa déclaration, c'est qu'il parle de la finance comme un tout. Et il a raison, là, c'est un système. Donc on peut pas regarder, on peut pas mettre sous les projecteurs une finance qui mettrait 1 euro dans des projets verts quand elle en met 3 dans les énergies fossiles. Et ça, c'est ce que nous explique Lucie Pinson.
Ce qui est intéressant avec vous deux, Lionel Lemarié, Julien Lefournier, c'est que tous les deux, vous travaillez dans la finance, vous avez fait des choix différents. Alors, vu de l'extérieur, moi, ce que je me dis, c'est il y en a un qui a choisi d'y rester pour essayer de changer les choses de l'intérieur et l'autre qui est parti pour peut-être nous aider à comprendre et faire de la pédagogie. Julien Lefournier, vous, pourquoi vous avez décidé de quitter le monde de la finance? Il y a eu un déclic, une prise de conscience?
Les raisons sont variées, donc c'est multifactoriel, mais je peux pas tout attribuer à la discussion qu'on a aujourd'hui, mais ça a joué son rôle, parce qu'en fait, déjà à l'intérieur, effectivement, je me suis prononcé, parce que, par exemple, Grandjean, Alain, aime bien me présenter comme financier repenti, parce que ça sonne bien, mais c'est faux, parce que je disais la même chose à l'intérieur, et je disais exactement la même chose à l'intérieur que depuis l'extérieur aujourd'hui. Simplement, bon, voilà, il y a un devoir de réserve. Donc, quand on est à l'intérieur, on est soumis à des règles. C'est pas une démocratie, l'entreprise. Mais par contre, oui, c'est sûr que quand on est engagé, quand on est sincèrement préoccupé par la lutte contre le réchauffement climatique, on se sent complètement, impuissant à l'intérieur d'une grande institution. On peut rien faire. On est soumis à la musique de la vigilance verte. Moi qui suis, par exemple, un spécialiste de l'obligataire, j'ai travaillé pendant 15 ans. Sur l'obligataire, je peux me considérer comme un spécialiste obligataire. Et effectivement, j'ai vu naître l'obligation verte en 2007-2008. Et quand j'ai compris que ce concept serait parfaitement inutile, voilà, on n'a pas de solution. Donc, on peut pas dire, on comprend cette musique, on le comprend parce que les entreprises, les asset managers. Collecte de l'argent, donc il doit avoir aussi l'argent de ceux qui se préoccupent. Donc on comprend ce verdissement-là de surface, mais par contre il n'y a pas de solution réelle qui soit proposée aujourd'hui. Enfin, epsilonesque, on va dire. Elles sont epsilonesque. Hein.
Alors peut-être Lionel Lemarié, vous partagez pas ce point de vue, puisque vous y êtes resté, vous êtes au sein de cette association qui essaye de faire bouger les choses de l'intérieur, si je comprends bien.
Oui, alors je partage pas mal de points de vue. Je le partage parce que moi, je suis croyant et pratiquant de la matière ISR, investissement socialement responsable, depuis des années. Je travaille dans un groupe dont l'actionnaire, donc le Crédit Mutuel, s'est désengagé à la fin du mois de début octobre, de tout ce qui est financement du charbon, extraction. Donc c'est un mouvement qui a été fait. J'entendais parler de la Banque Postale. Le Crédit Mutuel l'a fait également. Et je trouve que, alors, dans mon propos, je voulais surtout pas me dire que l'asset management ou la finance se désengageait totalement de la responsabilité. Ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt une très très bonne nouvelle que tout le monde s'intéresse désormais à ce sujet, que ça soit du côté de l'épargnant, parce que longtemps ça a été une affaire de militants ou alors de congrégations, de diocèses, moi, que je pouvais rencontrer, qui avaient des logiques éthiques. Et donc, on se voyait à la fin des années 90 sur des fonds éthiques qui étaient labellisés par un organisme qui s'appelait l'ARES à l'époque. Et puis, on est passé donc sur des phénomènes d'exclusion. Aujourd'hui, on travaille dans un environnement d'exclusion. Donc, on exclut toute la partie, tout ce qui est tabac, tabac, pétrole, excusez-moi. Et puis après, vous allez avoir une logique qui est ce qu'on appelle dans notre jargon le best in class, c'est-à-dire on prend le moins mauvais de la classe dans les termes de sélection de fonds, de sélection de valeurs. Et puis vous avez une logique de thématique après sur l'investissement socialement responsable et puis une logique à impact. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est souvent cumulatif et tout ça est fait dans un environnement de réduction des d'émissions de gaz à effet de serre. Et tout ce qui est fait en ce sens-là est plutôt bien. Moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que ça prive quand même, si on revient sur les exclusions, ça prive quand même de l'accès au capital à certaines sociétés. Donc, vous avez tous des pans de la cote qui sont privés d'émissions obligataires avec des bons ratings. J'entendais parler tout à l'heure de Munich Re. Munich Re et les assureurs, face au risque climatique, effectivement, ils ont pricé déjà depuis bien longtemps que si vous avez une société qui émet une obligation et qui n'a pas pris en compte les risques climatiques, elle va perdre son bon rating.
Et vous, dites-nous si vous êtes d'accord avec ce que disent nos invités depuis le début de cette émission. Est-ce que écologie et finance peuvent-elles faire bon ménage? Est-ce que la finance peut-elle être verte? Vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne. Laissez-nous également vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr et dans notre groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléau.
Avec nos trois invités qui nous accompagnent dans cette première partie, Lucie Pinson, Lionel Lemarié et Julien Le Fournier.
Je crois que Julien Le Fournier, vous vouliez réagir à ce que nous disait juste à l'instant Lionel Lemarié.
Oui, c'était pour faire comprendre, parce qu'effectivement, il a raison de parler. Donc l'investissement responsable, l'origine, c'est très ancien en fait. Hein. C'est plutôt une origine effectivement religieuse, donc morale, et on comprend très bien. Aux États-Unis, des Quakers voulaient pas financer la pornographie, l'alcool, hein, ça entraînait des, on comprend, ça entraînait des ravages sociaux très importants, et donc ils souhaitaient pas financer ces entreprises pour ne pas participer à leur développement. La limite de ça, c'est qu'ils savaient que ne le faisant pas, bah, le voisin le ferait. Hein. Et ensuite, ça a été le tabac, ensuite ça a été les marchands d'armes pour les pacifistes. Donc le tabac, si vous voulez, les grands cigarettiers ont fait entre 500 et 600 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc merci, ça va beaucoup pour eux. Donc on peut pas adopter sérieusement simpliste que des exclusions proposées aux clients résoudraient le problème. Il y aura toujours des gens. Hein, la finance privée, c'est pas que les sociétés cotées, c'est pas que les instructions en bourse, c'est pas que les fonds, etc., etc. Donc quand je dis que ça fonctionne comme un système, c'est que on peut très bien comprendre une position morale qui est tout à fait légitime, encore une fois. Moi, je peux très bien faire la même chose, mais il faut pas penser que ça emportera le résultat. Ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, je pense, qui est fondamental de comprendre avec cette approche, c'est que quand nos amis Quakers nous disaient « je ne fais pas ci, je ne fais pas ça », c'est effectivement quoi qu'il en coûte, d'accord ? Peut-être que ces actions que je n'achetais pas allaient surperformer cette année-là, et donc c'était vraiment une position très très forte. Une position quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on n'entend pas. Aujourd'hui, ce qui a été mis en place, c'est un truc où on n'assume aucun coût d'opportunité. Hein, parce que si je me prive pour suivre les recommandations de Lucie, si par exemple je n'investis pas dans les actions des pétroliers, là vous savez, post-Covid, il y a eu un rebond absolument phénoménal, le S&P 500 énergie a pris quasiment 100%. Bon, eh bien, si je dis je joue pas avec ces titres-là, eh bien, potentiellement, je ne peux pas profiter de ce rebond et donc je sous-performe par rapport à mes concurrents. Donc voilà une différence fondamentale entre ce qui était dit avant, c'est-à-dire je ne fais pas quelque chose, j'exclus potentiellement quoi qu'il en coûte, alors qu'aujourd'hui, le message de l'essentiel de la finance verte ou durable, c'est la même promesse de performance financière que les autres et en même temps, on va sauver le monde. Donc on comprend effectivement qu'on va sauver le monde pour zéro. Ben, ça fait pas beaucoup d'engagement tout ça.
Alors, Lucie Pinson, la Banque Postale s'est engagée récemment à liquider ses 1,2 milliard d'euros d'actifs aux énergies fossiles d'ici 2030. Puis dans la foulée, je crois que c'était juste avant la COP26, 6 banques françaises ont annoncé cette mise d'accord pour ne plus financer à partir de 2022 certains projets d'hydrocarbures non conventionnels. À ce moment-là, vous aviez réagi au nom de Reclaim Finance en déclarant que ces engagements étaient insignifiants. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les institutions françaises, donc de BNP à Crédit Agricole en passant par Société Générale et le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, se sont engagées à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et l'Agence internationale de l'énergie nous dit que pour atteindre cette fameuse neutralité carbone, il faut arrêter de développer de nouveaux projets de production pétrolière et gazière. Or, la mesure qui a été annoncée par la Fédération bancaire française ne leur permet toujours de soutenir, de financer directement plus de 70% des nouveaux projets pétroliers et gaziers. Donc on est très très loin d'avoir une réponse adéquate par les banques françaises à l'urgence climatique et à leurs propres promesses. J'aimerais revenir aussi sur ce que disait Lionel, sur la réaction des assureurs et sur les propos de Julien sur l'efficacité de l'exclusion. On a vu, oui, en effet, des assureurs qui, pendant un moment, ont adapté leur réponse au dérèglement climatique en adaptant leur prime d'assurance. Un objet étant plus risqué, on augmente la prime. Alors ça a été ça n'empêche pas l'impact direct sur les populations locales directement en première ligne des impacts du dérèglement climatique. Et aujourd'hui, si les entreprises du charbon ont du mal à trouver de l'assurance, c'est parce qu'à partir de 2017, les assureurs sont passés d'une logique où on adapte la prime d'assurance au niveau du risque à justement une mesure d'exclusion du secteur du charbon. Et Munich Re, entre-temps, a pendant plus de 40 ans continué d'assurer de nouvelles centrales qui n'ont fait qu'aggraver à la fois l'impact sur le climat et sur les populations. Donc l'exclusion sectorielle est efficace lorsqu'elle est portée par des gros poids lourds d'un secteur, et ça a été le cas pour l'assurance, et c'est en train d'être le cas pour le secteur bancaire également. J'aimerais revenir juste un tout petit peu sur l'ISR, parce que
alors, ISR,
l'investissement socialement responsable.
Voilà, ce qui est compliqué, c'est que vous êtes sur un secteur où il y a plein d'expressions que, pour le commun des mortels, sont assez inaccessibles.
Je vais revenir sur... En fait, c'est la question de... au tout début de l'émission, on est parti du bon sujet, à savoir, aujourd'hui, la population française souhaite, en majorité, mettre son argent au service de la transition écologique. Mmh. Maintenant, la question, c'est comment le fait-on, et est-ce que les produits d'épargne qui sont commercialisés en France le permettent? Et là, on va se rendre compte qu'avec un livret développement durable et de solidarité, il y a certes une petite partie de l'argent qui va aux logements sociaux ou à des projets qui financent la transition énergétique, mais plus de 70% des fonds sont utilisés comme le souhaitent les banques. Et donc là, on a un problème, étant donné qu'on a une BNP Paribas qui est le quatrième financeur au monde des énergies fossiles en 2020. On a un Crédit Agricole qui a des politiques d'exclusion extrêmement minimalistes, en effet, par rapport au Crédit Mutuel et surtout par rapport à une banque postale, etc. Après, vous avez d'autres produits d'épargne, notamment le produit ISR qui existe depuis plus d'une... Alors, il y a un label d'État qui a été décerné en 2016, et le produit en tant que tel existe depuis plus de 10 ans. Et le problème, c'est que il est structurellement inadéquat pour répondre à l'urgence climatique, et c'est pas seulement les ONG qui le disent depuis plus de 10 ans, c'est également l'Inspection Générale des Finances qui a rendu public un rapport l'année dernière et qui dit qu'aujourd'hui l'ISR ne tient pas la promesse qu'il fait, puisque avec son joli nom, on entend tous que son argent est placé au bon endroit, et alors que le fonds est construit sur une logique, comme le disait Lionel, sur une logique best in class, à savoir vous prenez un univers d'investissement, le gestionnaire du fonds va noter les entreprises de cet univers d'investissement sur des critères environnementaux, sociaux ou de la qualité de la gouvernance qu'il s'est lui-même doté, qu'il a lui-même choisi. Donc tous les gestionnaires vont choisir des critères potentiellement différents. Il enlève les 20% les moins bien notés, mais ça ne veut pas dire que les 80% sont bien notés ou en tout cas garantissent un niveau en matière de performance sociale ou environnementale qui est adéquat. Et donc aujourd'hui, avec des fonds ISR, vous allez très facilement retrouver votre argent dans des fonds où se trouvent Total Energy, Lockheed qui est un marchand d'armes, Amazon qui a des pratiques en termes de respect du droit au travail très contestables, etc., etc.
Moi, je...
Lionel, oui, je voudrais... le marié.
Non, c'est...
Ah non, c'est pardon. Julien Lefournier.
Alors, vraiment,
oui,
deux
je voudrais
mots.
Dire deux mots, oui, parce que Lucie reprenait au départ sur ce que les gens veulent faire avec leur argent, et je pense que c'est un fondamental. Il y a une incompréhension là-dessus. Hein. C'est ce qu'on raconte. Et quand vous faites des enquêtes, vous avez effectivement mention que les gens souhaiteraient que leur argent soit utile. Mais ça vient à la 7e, 8e, 9e position derrière la rentabilité et la maîtrise du risque. Donc, c'est un toute chose égale par ailleurs qui vide de substance le souhait essentiellement. Hein. Je parle de la masse. Je dis pas qu'il y a des gens qui... Je parle pas d'une minorité. Encore une fois, on a un problème qui est systémique. Et c'est pas, on va pas le résoudre avec des epsilon.
C'est plus le cas aujourd'hui.
Donc, oui, ben si, c'est exactement le cas aujourd'hui. Mais c'est pour ça d'ailleurs que l'offre qui est en face est complètement cohérente avec ça, puisque en promettant la performance financière et de sauver le planète, elle répond exactement à cette demande, mais qui est une demande qui n'est pas sérieuse. Mais d'ailleurs, c'est pas le propre de la finance. Hein. Vous regardez les gilets jaunes. Enfin, je veux dire, tout le monde est écolo, mais personne ne veut payer. Ça, c'est la réalité. Hein, c'est la réalité.
On veut tout et son contraire. On veut une chose.
Exactement. Le président a dit, on peut pas être le lundi pour l'aide pour le climat et le mardi contre la taxe carbone. Et j'ai envie de dire, le mercredi, on donne un chèque pour payer l'essence. Enfin, je veux dire, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Mais faut pas se bercer d'illusions et penser que les gens veulent que, etc. Non. Quand on regarde dans le détail, les gens, ils sont très contradictoires et ce qu'ils demandent à leur argent, et ça va tout à fait, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués, il faut que l'argent travaille, etc. Quand on regarde la réalité de l'engagement, elle est extrêmement faible.
Alors, Lucie Pinson veut réagir, mais Lionel Lemarié n'a pas eu la parole depuis longtemps. On va marquer une pause.
On
reviendra avec Lionel juste à la reprise.
Et n'hésitez pas à venir à l'antenne également pour apporter vos lumières au 04 72 38 20 23. On vous attend en direct. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléau.
Allez, un peu de rock tout de suite et de chansons sur RCF. Argent trop cher, c'est téléphone. Et vous en profitez pour nous appeler au 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne. Argent trop cher, c'était téléphone sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléau.
Avec une question ce matin, écologie et finances peuvent-elles faire bon ménage? On en parle avec nos trois invités, Lucie Pinson, Julien Lefournier et Lionel Lemarié.
Lionel Lemarié, vous qui êtes ce matin le représentant de la finance, on va dire, même si c'est une finance qui se veut responsable. Ce que nous disait Julien Lefournier juste avant la pause, c'est en gros, si je caricature pas, un produit financier, enfin les Français sont contradictoires, ils veulent à la fois des produits financiers qui soient verts et qui soient rentables. Or, c'est la quadrature du cercle. Enfin, comment vous vous répondez en tant que professionnel à ça?
Oui, moi je représente les asset managers, hein, ceux qui gèrent l'argent des autres. On fait de la gestion pour le compte de tiers. Mais avant de répondre à votre question, j'écoutais la chanson de téléphone, je me dis, j'entendais argent trop cher. C'est effectivement, on voit que la chanson est un peu datée, parce que pour le coup, l'argent n'est pas très cher en ce moment.
C'est 1994, hein.
Ah, oui, ça plus en avant.
Ouais, c'est avant ça.
Avant ça?
Je pense, oui. Mon avis, c'est plus vieux.
J'étais pas né.
C'est pour ça.
et c'est d'ailleurs le sujet des, ce qu'on appelle des green bonds, des obligations vertes, qui sont pour la plupart, ont été émises avec des notations extrêmement bonnes. Donc, ce qu'on appelle investment grade dans notre jargon, et qui, pour le coup, n'ont pas intéressé grand monde, puisqu'une obligation, qu'elle soit verte ou pas, elle est régie par le marché. Ce que je veux vous dire sur la partie investissement, c'est que il y a d'un côté les pragmatiques et de l'autre côté les fondamentalistes. Je comprends la logique qui soit fondamentale, qui est de dire il faut sortir de tout ce que, de toute l'économie carbonée. Mais si on écoute effectivement Jean Covici et tous les autres qui regardent l'industrie, bah ça va coûter extrêmement cher. Ça veut dire qu'il faut qu'on baisse de l'ordre de 80% nos émissions de CO2. Ça veut dire que vous avez 40% de la capitalisation boursière de l'économie charbon qui risque d'être perdue. Donc là, on part quand même dans une logique de récession assez désagréable. Donc moi, je me situe du côté plutôt des pragmatiques, c'est-à-dire à accompagner les sociétés dans leur transition. Et j'ai plutôt envie de dire qu'il faut investir dans des sociétés qui, certes, décarbonent ou n'investissent pas ou n'émettent pas de CO2, pardon. Mais ça, c'est, j'ai envie de vous dire, le marché le sait déjà. Ce qu'on cherche, nous, quand on place l'argent, qui est l'argent de nos clients, je me répète, c'est l'argent des caisses de retraite, des institutions, des mutuelles, l'argent des épargnants privés également, c'est que quand on place son argent, on le place avec son portefeuille et pas avec son bon cœur. Et on le place d'abord pour gagner de l'argent. Et ensuite, je crois, moi, que si on accompagne les sociétés dans la transition énergétique, c'est-à-dire que si on est avec ce qu'on appelle, nous, les mauvais élèves, donc les gens qui sont en phase de transition énergétique, des sociétés qui, par exemple, vont impacter le salaire, la rémunération du dirigeant en fonction des émissions de CO2, éviter. Je pense à Enel, par exemple, qui fait ça. Eh bien, vous pouvez avoir des gens qui sont mauvais élèves, et puis vous pouvez avoir les gens qui aident les mauvais élèves à se soigner. C'est-à-dire, par exemple, les solutions électriques, les batteries, même si rien n'est parfait dans notre monde. J'entends déjà le débat sur les batteries. Et ça constitue une grande partie du portefeuille, c'est-à-dire accompagner les sociétés dans leur transition énergétique. Et c'est ça qui va générer de la performance. Parce que le problème, et je finirai là-dessus, le problème de l'investissement socialement responsable, c'est que c'est un investissement à duration longue. C'est-à-dire que l'impact que vous allez avoir sur la performance, finalement, et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui qu'on a encore des performances sur les pétrolières, finalement, l'impact de sous-performance, vous allez avoir dans quelques années, dans longtemps. Donc, c'est un investissement à duration longue. Et pour qu'il soit, pour que vous gagniez un peu plus d'argent, ce qu'il faut dire à vos éditeurs, c'est que si vous investissez durablement dans de l'économie carbonée, alors vous perdrez de la performance.
Donc c'est pas rentable en fait.
Votre portefeuille sera moins rentable que si vous investissez sur un portefeuille en phase de transition énergétique ou décarboné en partie.
Avant de laisser Julien Lefournier et Lucie Pinson réagir, juste je saisis au vol une chose que vous avez dite. Vous dites le marché le sait déjà, mais enfin c'est quand même, c'est des expressions qu'on entend tout le temps et... Excusez-moi, mais c'est étonnant, c'est qui le marché ? Enfin...
Ah, pardon. les marchés financiers sont, les acteurs du marché financier sont principalement des institutionnels, des grands institutionnels, des caisses de retraite, des fonds de pension, que vous avez aussi des corporates. Donc ça, c'est plutôt le marché. Et ce qu'on cherche quand on investit, on cherche ce qu'on appelle dans notre jargon un catalyseur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir gagner, on va pouvoir surperformer le marché.
Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'entité là qui serait, qui aurait comme une, qui serait anthropomorphisée et qui déciderait des choses. Et c'est aussi ça qui fait que on a du mal à comprendre.
Non, mais je crois que ce soit Julien ou moi ou Lucie, pardon, nous sommes bien réels. Donc derrière la société dans laquelle je travaille, qui est la française, il y a des gens qui investissent pour le compte de nos clients. Donc derrière, ce sont vraiment des hommes. Et pour le coup, vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. C'est que je ne veux jamais, moi, faire la différence entre l'épargnant de la rue, l'homme du sens commun, et finalement l'institutionnel. Parce que l'institutionnel, bah, au final, c'est le directeur financier, le trésorier d'une caisse de retraite. Et le soir, quand il rentre chez lui, il a peut-être eu aussi un projet de famille, comme notre ami Trunka.
Lucie Pinson, quand vous entendez Lionel Lemarié dire de toute façon les produits qui investissent dans les énergies fossiles, il faut qu'on prenne conscience que c'est pas rentable, est-ce que cet argument-là suffit pour avancer et pour contribuer à réformer le système ?
Non, malheureusement, je ne pense pas, parce que oui, à terme, potentiellement, la durabilité va payer. Le problème, c'est que c'est pas nécessairement vrai dans tous les cas. Lorsque vous êtes une banque ou un assureur, vous avez encore énormément de profits à faire sur des contrats courts, des services d'intermédiation financière qui peuvent être désastreux pour le climat et l'environnement et rapporter sur le court terme quand même beaucoup d'argent pour ces acteurs. Et puis, au-delà de ça, en fait, je pense qu'il faut sortir de la logique la logique financière avec selon laquelle il suffirait d'élever les prix pour transformer le secteur financier. Je pense qu'il y a d'autres freins à la transformation. On parle quand même de gros mastodontes hein, qui sont des institutions incarnées. Donc il va y avoir d'autres dynamiques internes et externes qui peuvent jouer sur leur motivation à agir. Et inéluctablement, étant donné le contexte d'urgence climatique dans lequel nous nous trouvons, nous ne pouvons pas compter sur une autorégulation des acteurs financiers. Et donc il va falloir que le régulateur intervienne pour changer les règles du jeu et forcer les acteurs financiers à aligner réellement leurs activités avec une trajectoire climatique qui est viable.
Qui est le régulateur en l'occurrence? Parce qu'on voit bien que ces enjeux-là, ils ne se jouent pas à l'échelle d'un pays par exemple.
Ils peuvent se jouer à l'échelle d'un pays. Vous avez notamment tout de suite, on parlait de l'enjeu de l'épargne et de la nécessité peut-être de rendre plus accessibles les informations auprès des épargnants, de manière à leur faire prendre conscience de l'impact de leur argent et les guider dans des choix de produits d'épargne plus vertueux pour l'environnement. De la même manière qu'on a des labels sur la nourriture, eh bien, on pourrait avoir un étiquetage des produits financiers pour s'en sensibiliser et inéluctablement ça pousserait certains épargnants à changer leurs pratiques. Et donc ça peut se jouer clairement à l'échelle française avec il y a des propositions un peu dans ce sens régulièrement dans le projet de loi des finances entre septembre et décembre qui sont portées par des parlementaires et qui malheureusement ne passent pas. Vous avez aussi bien entendu l'échelle européenne et là vous avez toute une stratégie finance durable qui est en train d'être développée à l'échelle européenne et qui vise justement à changer quelques règles du jeu au niveau des institutions financières. Malheureusement, il y a une pièce maîtresse de cette stratégie qui s'appelle la taxonomie, qui entend qualifier ce qu'on peut étiqueter comme étant durable. Et malheureusement, aujourd'hui, cette taxonomie est attaquée par plusieurs pays, la France, mais aussi des pays d'Europe de l'Est, qui font pression sur la Commission pour intégrer à la fois le gaz, énergie fossile, et le nucléaire dans la taxonomie au risque de la décrédibiliser et donc de saper totalement les efforts qui ont été mis dans la mise en place de nouvelles règles. Et puis au-delà des régulateurs stricts, vous avez plein d'acteurs autour qui peuvent intervenir et notamment les banques centrales qui jouent un rôle clé dans l'orientation des choix des acteurs financiers.
Julien Lefournier.
Oui, juste sur la taxonomie, parce que c'est un sujet important, mais d'une certaine manière, c'est vrai que se mettre d'accord sur ce qui est vert ou ce qui ne l'est pas, c'est important, mais c'est pas suffisant. Je prends le cas de, puisque Lionel Lemarié l'a évoqué, de l'obligation verte, par exemple. Donc, pour faire comprendre aux gens, je prends un parallèle avec un prêt, parce qu'une obligation, c'est comme un prêt. Écoutez, si je pense m'acheter une voiture électrique, j'hésite avec un moteur électrique, un moteur thermique, pour me décider, l'État ou la région me donne un bonus. Donc l'État fait sa part. Moi, je fais ma part parce que c'est plus cher. Donc il y a un reste à charge, donc que j'assume en partie. Je fais ma part. Mais quand je vais chez le banquier pour financer pour mon crédit auto, le taux est strictement le même que j'achète le véhicule à moteur thermique ou le véhicule électrique. Et pourtant, si j'achète le véhicule électrique, le banquier pourra donner un coup de tampon sur le prêt en l'appelant prêt vert et en se mettant à pleurer. Je trouve ça un peu inintéressant et excessif. Et l'obligation verte, c'est exactement ça. Donc, les ONG ont tout à fait raison d'attirer notre attention sur est-ce que c'est bien lié à un projet vert ou pas. C'est le premier niveau, parce que si j'ai une obligation verte qui sert à financer une centrale thermique à charbon, il y a un problème. Et parfois, le diable est dans les détails, hein, puisque si je fais un barrage, on peut penser énergie électrique renouvelable, hydroélectrique, super, mais en même temps, j'ai noyé une vallée, j'ai noyé des villages, j'ai détruit de la biodiversité, il y a un souci. Donc c'est un bon débat, et elles ont tout à fait raison de regarder cela. Et en même temps, si ensuite le prix est le même, ça veut dire que c'est pas de la finance verte pour moi. Hein, tout le monde peut le faire. Si c'est rentable, j'aurai toujours tous les financiers. Et c'est ça ce qu'on nous vend aujourd'hui comme finance verte. Okay ? Donc on nous dit, oui, mais on me dit, Julien, mais il y a de la finance verte puisque les financiers financent des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Mais n'importe qui peut le faire. Hein ? Le Conseil d'État a dit qu'on avait mis 120 milliards de subventions à travers des garanties des tarifs garantis de rachat, etc. Donc c'est très facile de fabriquer. Si c'est l'État à chaque fois qui fait franchir aux actifs le fossé de la rentabilisation, il n'y a aucun souci. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit les mains se lever, qui pour les batteries, qui pour l'hydrogène vert, d'accord ? Mais c'est pas la finance, c'est l'État. Alors, ok, moi, j'ai rien contre que l'État soit l'investisseur social et environnemental de référence, ça me va. Mais il faut le dire aux gens, et au bout d'un moment, ça va quand même poser un petit problème, parce que l'État, c'est nous tous, c'est tous les contribuables. Et on n'a pas un rôle de la finance qui servirait, si vous voulez, vraiment d'accélérateur. Il se passe rien à ce niveau-là. Voilà.
Lucie Pinson, de quelques mots, parce qu'après on a des réactions d'auditeurs.
Ouais, rapidement sur ce qu'on peut faire concrètement. D'abord, nous, on est assez favorable à une pure interdiction du financement de certaines activités, de la même que le régulateur peut intervenir pour interdire certaines pratiques, il pourrait interdire aux acteurs financiers de ne plus financer certaines activités, notamment le développement de nouveaux projets d'énergie fossile. Pour l'instant, on a un gouvernement qui est dans l'appel aux bonnes volontés et de toute évidence, ça ne marche pas, puisque l'année dernière, il faut rappeler que Bruno Le Maire avait demandé aux acteurs financiers français de sortir des pétroles et gaz non conventionnels et, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne font que arrêter certaines des entreprises et non pas les entreprises, même pas les mêmes entreprises qui s'y développent. Le deuxième point, ce serait de changer les règles prudentielles pour forcer les acteurs financiers à avoir beaucoup plus de fonds en réserve lorsqu'ils financent des projets carbonés. Le troisième, au niveau de des banques centrales, serait que les banques centrales également arrêtent de racheter des actifs des secteurs les plus polluants. Et enfin, on en revient aussi quand même aux mesures de transparence et de reporting qui vont être indispensables à partir du moment où ils vont permettre à tout un chacun d'accéder à l'information qui leur est nécessaire pour réorienter leur épargne.
Quelques messages reçus à l'instant par mail à l'adresse direct@rcf.fr. L'un pour vous, Julien Le Fournier. Les propos de Julien Le Fournier sur la rentabilité de la finance montrent bien son esprit. Si la finance responsable n'est pas assez rentable et nous fait rater des opportunités, alors au diable l'éthique et allons au plus offrant, puisque d'autres en profiteront. Avec ces raisonnements, on n'est pas sorti de l'auberge. Julien Le Fournier, une réaction sur ce témoignage de Pierre d'Avignon.
Bah non, mais malheureusement, cette optimisation, c'est le jeu de la finance, verte ou pas verte, c'est bien le problème. Et c'est d'ailleurs absolument structurel. Imaginez un jeu, vous jouez au Monopoly, et vous dites, moi je vais pas acheter les terrains marrons, ok ? Vous imposez une règle supplémentaire. Eh bien, avant d'avoir jeté le premier dé, vous avez perdu statistiquement la partie, d'accord ? Parce que quand votre pion va tomber sur un terrain marron, vous pourrez pas l'acheter. Donc, c'est pour ça que la finance qui s'est mise en place, c'est des règles un peu bidons à partir de notes de notation ESG, Lucie en a parlé, qui fait que au final on trouve Total dans à peu près 90% des fonds labellisés ISR. Enfin, c'est des règles qui ne sont pas mordantes parce que justement cette optimisation, c'est le cœur de la finance. Donc moi je voudrais bien que ce soit différent, mais c'est un vœu pieux. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Après, vous avez quand même quelques approches où justement on vous dit les choses, on fait un tout petit peu différemment. C'est par exemple, prenez l'épargne solidaire, ok ? Qu'est-ce que c'est ? Les gens nous disent, donnez-moi 100. Sur 100, ils vont en placer 90 dans le marché. Ça, c'est le marché qu'on a décrit. Et 10 vont servir à financer des projets avec un bénéfice sociétal, où on n'a pas l'exigence, justement, de rentabilité habituelle. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On comprend, c'est transparent, c'est clair. Et ces gens ne pensent pas réformer ni le monde, ni la finance, mais résultat des courses, et il faut leur donner. Mais résultat des courses, la finance solidaire, c'est 0,03% des patrimoines des Français, vous voyez ? Donc, c'est pas avec des epsilon qu'on va financer les centaines de milliers de milliards que vont coûter la transition écologique et énergétique.
Lionel Le Marié.
Alors, pour répondre à cet auditeur, et pour reprendre l'exemple de Julien tout à l'heure, moi, je regarde très régulièrement un indice qui est basé sur... alors, il s'appelle le Vice Fund, je suis désolé. Donc, c'est un indice qui est basé sur les valeurs dites vicieuses. C'est un fonds d'investissement qui a été créé il y a des dizaines d'années et qui, pendant des années, a surperformé le marché. Donc, évidemment, il est investi sur le jeu, sur l'armement, sur le tabac, sur le charbon. Cette année, cet indice, il fait moins 7%. Et si vous avez en tête le CAC 40, on est à plus 20. Donc je suis pas certain que les valeurs vicieuses soient plus performantes que les valeurs dites vertueuses. Après, on peut parler de qu'est-ce que le vice, la vertu, mais c'est un peu... Il est 9h52.
Je voulais un autre message, celui de Jean-Michel. Pour ma part, mes placements consistaient et consistent à conserver la valeur de mon travail en le mettant à l'abri de l'inflation, qui à une époque bordait les 14%. N'est-ce pas ce qu'il faudrait promouvoir dans l'esprit de la population ? Suis-je epsilonesque ? Voilà, Jean-Michel qui a retenu ce terme. Vous voulez peut-être répondre, Lionel Lemarié ?
Oui, il y a de l'inflation, il a raison. Pour faire le lien avec notre sujet, ce qui est envisageable, on parlait tout à l'heure de taxonomie, ce qui est envisageable, c'est que si on commence à payer réellement les biens de consommation que nous avons et le service avec le coût carbone qui est avec, c'est-à-dire aujourd'hui par exemple... avoir des champs de lin dans l'Aisne en France, les faire arracher par une boîte hollandaise, les faire transformer en Chine et faire revenir tout ça par des vêtements en cargo avec des vêtements en Europe. Jusqu'à présent, on ne paye pas le coût carbone que cela. Si on commence à payer le coût carbone, alors il y aura de l'inflation. Qu'il y ait inflation, peut-être qu'on aura une hausse des taux. L'argent deviendra un peu plus cher. Donc. Oui, il faut mettre son argent à l'abri de l'inflation. Non, on aura un retour de l'inflation.
Mais peut-être pour prolonger le message de cet auditeur, quelle est la marge d'action de chacun de nous en tant que citoyen et éventuel épargnant ? On comprend bien que ce que vous appelez de vos voeux, c'est une régulation qui se joue pas, enfin qui est pas dans les mains des citoyens. Mais est-ce que chacun d'entre nous a aussi un pouvoir d'agir, Lucie Pinson ?
Oui, tout à fait. Déjà, il faut s'informer, il faut en parler parce que ça servira à mobiliser d'autres personnes. Bien entendu, après, il y a toutes les actions individuelles qui peuvent être faites parce qu'on parle depuis le début de l'émission de la finance dominante, mais il y a bien entendu des acteurs plus vertueux que d'autres. On a entendu dans le reportage du début la NEF qui a été mentionnée, vers laquelle on peut se tourner pour prendre des livrets d'épargne qui vont servir les déploiements de projets sociaux, culturels, environnementaux. Vous avez aussi pour le compte courant des acteurs tels que le Crédit Coopératif ou encore la banque en ligne Helios. Et puis, il faut faire une distinction entre l'épargne et l'investissement. Il y a l'épargne de précaution qui est là pour se protéger des risques futurs. Et puis, vous avez potentiellement envie de placer votre argent pour aller dans une démarche d'aller chercher, grappiller quelques intérêts. Et donc là, il y a énormément de projets, en fait, dans lesquels l'auditeur peut placer son argent, notamment auprès d'énergie partagée. C'est un des multiples exemples. Et avec énergie partagée, vous allez soutenir le développement de projets d'énergie renouvelable citoyenne en France. Bon, bah voilà ce type d'alternative qui existe, tout en sachant que faire tout ça, ça va pas changer la face du monde et ça va pas changer la finance dans son ensemble et qu'il va falloir quand même se mobiliser en soutenant des associations ou directement en interpellant aussi les grandes institutions financières ou encore l'État français qui bien entendu a une responsabilité dans l'encadrement des règles des acteurs privés et aussi dans ses propres pratiques. Bien entendu, le gouvernement français doit encore balayer devant sa porte puisqu'il est très prompt à faire des appels à l'action aux acteurs financiers privés, mais lui aujourd'hui peut toujours soutenir le déploiement de nouveaux projets d'énergie fossile jusqu'en 2035 alors que c'est depuis 2019 que les grandes puissances s'engagent et répètent leurs engagements à cesser toute subvention aux énergies fossiles.
Julien Lefournier, sur la même question, que peut chacun de nous ?
Ben, je pense que, voilà, Lucie l'a dit, il y a quand même des gens qui font des choses un petit peu différemment. Enfin, ça nécessite beaucoup d'investissement personnel pour regarder justement ce qui est dit. Quelle est la promesse qui est faite ? Quels sont les objectifs de l'acteur ? Qu'est-ce qu'il revendique ? Quel risque supplémentaire est-il prêt à prendre pour favoriser la transition ? Je parle bien de prendre un risque supplémentaire. Quelle concession sur la rentabilité est-il prêt à faire ? Voyez ? Donc, quels sont les moyens ? Parce que obligation de moyens, obligation de résultats. Hein. Je veux dire, les gens ont tellement conscience que ce truc sur l'ISR est un peu du flan et du blabla, que vous voyez, on a développé maintenant une finance qu'on appelle à impact. Eh bien, demandez aux acteurs quels sont leurs impacts mesurables, parce que ça se mesure assez bien les émissions de gaz, à commencer par les émissions de gaz à effet de serre. Donc, oui, mais vous voyez, c'est extrêmement exigeant, mais donc il y a des choses qui peuvent être faites, certainement au niveau individuel. Après, il ne faut pas non plus se leurrer. On ne peut pas laisser le marché penser que la solution viendra du marché. Ok, le dysfonctionnement est consubstantiel au fonctionnement du marché lui-même. Donc après, il faut un arbitre, il faut être en dehors du marché, donner des règles, Lucier donner des pistes, le Brown Penalizing Factor, c'est-à-dire pour que la production d'actifs financiers bruns et donc que la production d'actifs physiques bruns soit plus limitée, il faut que les premiers soient plus chers. Il faut renchérir le coût pour les banques de prêter aux énergies fossiles. Donc il y a des choses à faire, mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités. On peut pas penser que la solution viendra du marché. J'entends cette musique sur la mythologie de l'information qui est classique dans les marchés. C'est complètement bidon. L'information est inopérante. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'enjeu du réchauffement climatique et les gens continuent à prendre leur charter pour aller en vacances. Bon, il y a des efforts personnels, il y a des gens qui réduisent, etc., etc. Mais il faut pas non plus, il faut pas se leurrer sur. On n'a pas fait basculer. Le secteur automobile, pardon.
On arrive au terme de l'émission, ouais. Évidemment, okay. On n'a pas tout dit, loin de là. On a peut-être juste donné envie de continuer à comprendre. Pour ça, on peut aller lire l'ouvrage que vous avez co-signé, Julien Lefournier, avec Alain Grandjean, L'illusion de la finance verte. On peut aller aussi sur le site internet de Reclaim Finance. Et puis, on peut aller aussi sur. Il y a un site internet, Acteurs de la finance
les
responsable.
Les acteurs de la finance responsable.
Voilà.
Merci
beaucoup à tous les trois d'être venus nous éclairer ce matin.
Merci Anne-Pierre Léo. Dans un instant, on va poursuivre un petit peu ces réflexions. On va parler du commerce équitable qui est peut-être une parabole de ce qui est possible. On en parle dans un instant. Entre 10h et 11h, bien sûr, avec vos appels au 04 72 38 20 23, vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr et dans notre groupe Facebook, je pense, donc j'agis. À tout de suite.